Voilà. Seigneur notre Dieu, je te remercie de ton œuvre miraculeuse au Pakistan, car il y a beaucoup d'écoles chrétiennes. Maintenant, ce que je sache, c'est un véritable miracle. Nous avons de mauvaises informations concernant ce pays. Mais Seigneur, nous sommes informés par ton Saint-Esprit, par des chrétiens, de ce qui se passe. Il y a énormément d'âmes qui t'appartiennent dans tous ces pays. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te rendons grâce pour le salut que tu accordes à toutes les nations, aux gentils, comme dit la Bible. Alléluia, au nom de Jésus. Alors, je rappelle toujours ce verset de 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit, le mystère de la piété, donc c'est Christ, hein, est grand, celui qui a été manifesté en chair, donc Jésus-Christ incarné, hein, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, donc désigné, légitimé par l'œuvre du Saint-Esprit, vu des anges, c'est ce que nous avons abordé à deux reprises, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Aujourd'hui, c'est prêcher aux gentils. Voilà le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui, du message. Prêcher aux gentils. Bien, quand j'ai approfondi ce point, hein, ces trois mots, prêcher aux gentils, je ne m'attendais pas à avoir... Je n'ai pas le quart des versets qui sont dans la Bible. Je ne m'attendais pas à avoir un tel... de telles découvertes et un tel travail. Alors, nous allons aller d'abord dans Genèse chapitre 3, verset 21, si vous voulez bien. Avez-vous une Bible? Ou si vous ne l'avez pas maintenant, vous l'aurez en réécoutant le message, en prenant un cahier, un bic. Dans Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. Donc, la bénédiction de Christ est déposée, de l'agneau sacrifié, est déposée sur Adam et Ève, grands pécheurs devant l'Éternel, et qui, sans doute, sans aucun doute, se sont repentis, ont vu leur malheur arriver. Et nous savons que Abel a fait aussi un sacrifice d'un agneau en mémoire prophétique, en mémoire de... du sacrifice de Christ, c'est-à-dire du salut par grâce. Dans l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Adam et Ève sont nos ancêtres. Dans la révélation biblique, c'est pas le singe, ils sont nos ancêtres. Et dans Romains chapitre 5, verset 14, Adam est le type de Christ, le type, la figure de Christ. Dans vos traductions à vous. En grec, tupon, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il a sur lui l'image de Christ. Marqué, Dieu a tamponné du haut du ciel, a mis un tampon, une marque éternelle sur le Père et la Mère des vivants. Donc les mères, tous les hommes et les femmes qui naissent depuis Adam et Ève sont marqués de la même certification, de la même promesse, c'est-à-dire d'un salut en Christ par grâce. Pas par des actes religieux, pas comme Caïn l'a voulu faire. Bon, donc ça c'est fondamental, ce verset est fondamental. Il mériterait de toute façon toute une journée de retraite spirituelle, par exemple si vous venez la deuxième semaine du mois d'août en retraite à Gombry, eh bien je pourrais faire un sujet, mais je vous demanderai plutôt vos questions. Mais si je n'avais pas de questions, je prendrais un sujet comme ça, j'approfondirais. Évidemment, mais il y a d'autres, beaucoup, tellement de sujets dans la Bible. Je vous laisse le choix si vous venez. Et si vous ne savez pas venir, eh bien, vous pourriez être sur l'appareil pendant cette période de retraite spirituelle. Je vous laisse le choix de vos questions, qui souvent ont été toujours pertinentes. Jusque maintenant, je suis très heureux de devoir travailler assez laborieusement à toutes les questions qu'on me pose, mais parce qu'elles sont bénéfiques pour vous et pour moi. La réponse est dans la parole de Dieu, pas dans mon âme, hein, dans la parole de Dieu. Donc, Genèse 3, 21 et Romains 5, 14, c'est la promesse éternelle de la grâce de Christ sur tous les descendants d'Adam et Ève. Regardons maintenant dans Genèse chapitre 8, versets 10 et 11. Genèse chapitre 8, versets 10 et 11. Quand Noé est dans l'arche avec toute sa famille et tous les troupeaux, tous les animaux, bien, il a lâché bien sûr un oiseau, c'est un corbeau au verset 7. Le corbeau, lui, ça ne l'intéresse pas vraiment d'informer Noé. Le corbeau symbolise toujours dans les paraboles de Jésus le voleur, l'envoyé, hein, celui qui ne sert pas Dieu. Qui sert plutôt le malin. Alors, la colombe, c'est autre chose. Au verset 8, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Chers amis, l'olivier, c'est une image extrêmement importante, très prometteuse. Donc, la colombe aussi, la colombe qui descend sur Jésus lors du baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit-Saint révèle à Jean-Baptiste que c'est le Messie, son cousin, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier et de Marie, est le Messie que lui, il attendait, qu'il ne connaissait pas. Il n'avait jamais vu en son cousin le Messie. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Et donc, la colombe est un instrument très symbolique de l'action de Dieu. Voilà. Reprendre. Voilà. Ça s'est interrompu, excusez-moi. Bon, la colombe, il faudrait bien que je vous éclaire un petit peu là-dessus. Psaume 55, versets 7 à 8. Cette colombe qui va revenir, qui est un rameau d'olivier, cette colombe est un grand symbole chez les juifs. Donc psaume 55 versets 7 et 8. La Bible m'a toujours surpris, me surprendra toujours. J'espère que c'est la même chose pour vous. C'est une mine d'or. Psaume 55 verset 7. Oh, je dis, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Donc la colombe annonce le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'autre repos. Mais, chers amis, il faut faire attention. Cette colombe a une renommée incroyable dans la Bible. Elle est, je prends le psaume 68, verset 14, « Tandis que vous reposez au milieu des étables, donc condition lamentable de l'humanité, hein, dans le péché, « Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. » Alors, ce qui est extrêmement incroyable, c'est que nous avons une allusion très forte ici à une idée, à l'idée suivante, verset 15, psaume 69, verset 15, « Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. » C'est le mont Hermon. Et vous savez, il faut lire ce psaume, lisez-le. Bon, maintenant, à propos du rameau d'olivier qui est dans le bec de la colombe, Vous savez, je suis toujours surpris, je vous le dis, de manière joyeuse, des richesses de la parole de Dieu. Je vous invite à avoir la même joie, chers amis. Alors, vous vous rappelez bien que dans Romains, au chapitre 11, que Israël sera greffé sur l'olivier. N'est-ce pas? Vous avez déjà lu ça souvent. L'Israël moderne sera greffé sur l'olivier. Pourquoi? Mais parce que la souche, c'était un olivier. La souche d'Israël est comparée à un tronc d'olivier et sur lequel les nations ont été greffées et ont pris la sève et ont donné toutes les âmes chrétiennes, toutes les âmes sauvées en Christ. Mais sur cet olivier, il y a des promesses. Romains chapitre 11, « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, c'est-à-dire greffé à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, donc de la bonne huile de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » J'apporte ce sujet-là pour dire que toutes les nations sont greffées sur l'olivier, sur Israël. Israël est l'olivier. Et toutes les nations sont greffées sur les promesses faites à Abraham, et Isaac, Jacob et à Israël. Et qui passent par Christ, évidemment. Donc, lisez, évidemment, Romains 11, versets 17 et 18. Et puis après, allez plus loin, si vous voulez, verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés, selon leur nature, sur leur propre olivier. Donc Israël, l'Israël d'aujourd'hui, est regreffé sur les promesses éternelles de Dieu faites à Abraham, Isaac et Jacob. Regreffé. Et donc, tous ceux qui ont cru en Christ ne peuvent pas se trouver en hostilité ou en orgueil, en présomption vis-à-vis d'Israël. Nous avons reçu tout l'héritage spirituel à partir d'Israël. Alors, l'olivier qui était dans la bouche, dans le bec de la colombe au moment de Noé. Cet olivier représente pour moi Israël. Dans toutes les nations, cet olivier sera la source de la vie pour toutes les nations. Retenez bien tout cela, chers amis, c'est essentiel pour comprendre la Bible. Et si nous allons dans Jérémie 11, versets 16 et 19, vous serez de nouveau étonnés. Mais comment que ça se fait que je trouve tout ça? C'est pas en prenant des livres de commentaires et tout, parce que des fois, j'y trouve pas le quart de ce que j'aimerais trouver, mais ce qu'il y a, c'est la passion de lire la Bible et de me laisser diriger par Dieu dans la lecture. Vous aussi, chers amis, laissez-vous diriger, ayez la passion de la parole de Dieu, la soif de la parole de Dieu, et là, vous trouverez des choses incroyables, que la raison humaine ne peut pas vous donner. La parole et le Saint-Esprit peuvent vous les donner. Alors, Jérémie 11, verset 16. Donc, il s'agit d'un texte où Jérémie parle d'Israël qui se compromet dans une foule de crimes, au verset 15. Mais au verset 16, il dit ceci. « Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. » Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Il s'agit d'Israël. Et ça, c'est Jérémie 11, verset 16, et plus loin, si vous voulez, le verset 19. L'Éternel m'en a informé, je l'ai su, alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Donc, les Juifs de l'époque de Jérémie ne pouvaient pas supporter la prédication de Jérémie. C'était révoltant, répugnant pour eux. C'était contraire à leur orgueil, à leur péché. Mais Jérémie a tenu bon. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Comme Jésus, bien sûr, évidemment. Comme Jésus l'a été. Ésaïe 53, et puis l'épître de Pierre qui en parle. J'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Et ils disaient entre eux, détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants. L'arbre, l'olivier. Alors je vais aller plus loin. Je vous ai dit que l'olivier, c'était Israël. Mais je vais dire que le vrai olivier dans Israël, c'est la prophétie. C'est le don de la parole de Dieu dans Israël. C'est ça le vrai olivier. La vraie souche qui donne la vie, maintenant qui redonne la vie à un Israël qui se convertit en grand nombre, chers amis. Et mais tous les peuples ont été greffés sur cette souche, sur cet olivier, sur cette prophétie, sur ce don de la parole, cette révélation de la parole divine, de la pensée divine, à travers les prophètes d'Israël. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, prêcher aux gentils, oui, selon un plan de Dieu, la parole, la révélation donnée aux Juifs est arrivée aux gentils. Par Jésus, par les apôtres, et puis ensuite par des chrétiens à travers le monde. Et dans Apocalypse, au chapitre 3, vous voyez que la petite église de Philadelphie ramène des gens de la synagogue sur le vrai olivier, sur la vraie parole, la vraie révélation, dont l'objet central est Jésus-Christ, et son salut par grâce, et non pas par la loi de Moïse. Voilà, j'ai essayé d'être clair dans tout cela. Je trouve que c'est essentiel pour comprendre prêcher aux gentils. Alors, nous pourrions continuer notre méditation à travers la parole de Dieu, évidemment. Prenons Genèse chapitre 12, verset 3. C'est pas toujours facile de tourner la page avec ma main gauche. Je suis pas gaucher. Mais pour le message, je dois le faire de la main gauche. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, qui habitait dans le sud de l'Irak, au pays de Shinéar, le pays de Our en Chaldée, Shinéar, hein, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc quitte les racines culturelles et idolâtres de ton pays, quitte ce lieu perverti par l'idolâtrie, la sorcellerie, etc., la divination, et va où je te conduirai, et je vais te construire une autre âme, une autre pensée, et tu me connaîtras. C'est un point de départ fondamental du prophète. Il est détaché, il est secoué, et son âme et son instruction viennent de Dieu. Il est bouleversé par la révélation. Il ne s'ancre pas dans ses pensées et ses idées sur ce qu'il a reçu de sa culture, de son pays, de ses parents. Le vrai prophète est ainsi. C'est de l'argile dans les mains du potier, à l'état pur. Alors, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai, c'est pas de la politique, hein. Il y en a qui l'ont cru, hein. Judas le croyait, c'est pour ça qu'après il a déçu de Jésus, il l'a trahi. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ici, il est mis clairement que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en Abraham. Pourquoi en Abraham? Parce que Abraham est le dépositaire de promesses qui le dépasse. Ce n'est pas parce que c'est Abraham qu'il est meilleur ou pire que nous. Pas du tout, ça le dépasse. C'est le plan de Dieu qui se révèle à Abraham, sans qu'il ait la moindre qualification au point de départ. Alors, je vais dans Genèse, chapitre 13, verset 16. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, je te le donnerai. » Il y a donc une postérité, ta postérité. C'est parmi les postérités. Et là-dessus, Paul, dans l'Épître aux Galates, argumente que la postérité, c'est Christ. Regardons dans Genèse, chapitre 15, verset 6. Quelle a été la particularité d'Abraham ? Évidemment, sous l'action divine. Parce qu'il était taillé au point de départ dans le même bois que nous, il était un pécheur, descendant d'Adam et Ève. Donc Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Abraham a déposé sa foi, sa confiance dans l'Éternel pour être sauvé, par grâce, pas par mérite, pas en prouvant quelque chose comme Caïn, en se reposant sur la miséricorde divine. Il a accepté d'être pardonné, justifié. Et Dieu lui imputa sa justice, c'est-à-dire, c'est un terme forensique, c'est un terme juridique, pour dire officiellement, devant toutes les autorités du ciel, il est déclaré juste, pardonné de ses péchés. Pour toujours. Son nom est inscrit dans le livre de vie, son nom dans le livre d'accusation est effacé. C'est extrêmement important, c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut jamais oublier. L'étape fondamentale de la grâce qui avait été donnée à Adam et Ève et à Abel, qui avait été perdue, diluée à travers plusieurs années, est retrouvée, non pas par les mérites d'Abraham, retrouvée, redonnée, de nouveau révélée en Abraham et sa descendance. Genèse 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. Je l'ai choisi en parlant d'Abraham. Je vais commencer au verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Je vous ai dit, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit du royaume de Dieu à venir. Hein. Alors, une nation grande et puissante, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, donc la sainteté. Et qu'ainsi Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est fondamental. Bon, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tous les descendants, Abraham est lui-même pécheur, il va pécher dans sa vie plusieurs fois encore, et il est toujours pardonné, il est toujours justifié, mais malgré tout, dans toute sa descendance, des fois, la soupe a été gâchée, comme on dit. Et pratiquement, il y en a un qui a accompli cette droiture et cette justice, c'est Christ. C'est pour ça que Christ a été envoyé. Il fallait que l'accomplissement de la prophétie faite à Abraham se réalise en Christ. Regardons dans Jacques, chapitre 2, verset 23. Jacques, pour ceux qui ont une Bible en anglais, c'est James. Jacques, chapitre 2, verset 23. Donc, Jacques est le frère de Jésus, responsable de la première communauté chrétienne, celle de Jérusalem. C'est pas peu dire le mandat qu'il avait, le mandat divin. Chapitre 2 de Jacques, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu Et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu. Et pourquoi dans ce chapitre 2 on parle d'Abraham? Parce que Abraham a obéi et a fait les œuvres que Dieu lui avait demandées. Il a quitté son pays, il a quitté sa culture, il a quitté l'idolâtrie, il a quitté tout ce qui le liait, toutes les chaînes, et il est parti vers la Judée. D'abord vers la Syrie, à Padan-Aram ou Charan, et puis ensuite dirigé vers les montagnes, les collines de Judée. Il a été ami de Dieu dans le fait d'avoir été pardonné, mais aussi dans le fait d'avoir obéi et d'avoir été enseigné par Dieu. Et sur tout le chemin qu'Abraham a fait, qui a été pénible, Dieu le dirigeait, l'accompagnait et l'instruisait. Il fut appelé ami de Dieu. Donc, je reviendrai sur cette appellation, il fut appelé ami de Dieu. Vous allez voir que ça nous concerne directement. Allons voir Galates chapitre 3, verset 16. Galates, chapitre 3, verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « aux postérités » avec X et S, hein, comme s'il s'agissait de plusieurs postérités, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. À Christ. Alors, comment devient-on enfant de Dieu? Eh bien, vous avez l'explication dans Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Baptisés au sens de Romains 6, c'est-à-dire péché crucifié à la croix au moment du Golgotha. Je ne parle pas ici du baptême d'eau. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni femme ni homme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous avez clairement l'explication, ici par Paul, et vous voyez bien ici que l'expression qui est dans Timothée, l'épître à Timothée au chapitre 3, verset 16, prêchez aux gentils, bien nous le voyons, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus de discrimination entre l'homme et la femme, il n'y a pas de discrimination entre les hommes riches, les hommes puissants, libres, au niveau civil, et les autres, les sous-classes, Untermensch, Übermensch, hein, comme Hitler, etc. Et même en Inde et tout ça, il y a les castes, hein. Il y a les castes, c'est incroyable. Les castes sociales, même ici, recommencent, hein. Elles recommencent, durement, je trouve. C'est pas Dieu qui le veut, hein. C'est l'autre. Alors ici, vous avez vu que dans ce texte, il y a ni juif ni grec. Donc, prêcher aux gentils, c'est clair, dans Galates, au milieu de la Turquie, c'est une évidence. Tout était dans la Bible, dans la promesse d'Abraham. La promesse d'Abraham comprenait les gentils. Donc, quand Paul dit à Timothée, 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, prêchez aux gentils, c'est bien sûr une évidence pour tous les apôtres que les gentils étaient intégrés depuis toujours dans le plan de Dieu, dans le plan de salut promis à Abraham. Alors, vous avez vu que dans Jacques, ami de Dieu, Abraham était déclaré ami de Dieu. Je vous invite quand même, et ça c'est très important au niveau spirituel pour nous, pour notre vie personnelle avec le Seigneur Jésus, notre vie intime, notre vie de prière et notre identification, la conscience de ce que nous sommes. Dans Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » En fait, c'est Jésus qui a le plus grand amour. Le Christ a le plus grand amour. Vous vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, donc mis debout en face de moi, pour me connaître, afin que vous alliez vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Vous avez vu, je vous ai choisi. Vous êtes mes amis. Ça rejoint Jacques, chapitre 2, verset 23. Et ça rejoint tout ce qui s'est passé entre Abraham et Dieu. Donc, dans cette nouvelle alliance, non pas celle de la loi avec Moïse, dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, si réellement nous comprenons notre situation réelle en Jésus, il nous demande d'obéir à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera en nous, oui, comme lui, il l'a fait vis-à-vis de son Père. Notre moteur, c'est Jésus-Christ. Et donc, nous ne sommes plus serviteurs, nous sommes amis, parce que nous sommes mus par l'amour. Nous sommes mus par la, je ne dis pas la fascination, la séduction de l'amour, mais en tout cas, oui, c'est des mots qu'on peut un peu employer. La puissance de l'amour fait de nous des amis en Christ. Des amis de Christ et des amis du Père. Et l'amour du Père se déverse en nous, l'amour de Christ se déverse en nous. Et nous connaissons la pensée de Christ, comme dit Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 2. Nous avons la pensée de Christ parce que nous sommes unis profondément. Nous le connaissons et il nous connaît encore mieux. C'est très important parce que ça rejoint fondamentalement ce qui s'est passé pour Abraham dans sa vie. Donc vous voyez que ce qui avait été promis à Adam et Ève, cette marque de Christ, est la plus belle des promesses faites à l'humanité. Et dans l'Évangile, nous portons une espérance folle. Nous portons un message considérable que personne d'autre ne porte. C'est pas par orgueil que je le dis. C'est un privilège et nous devons le porter avec humilité et l'accomplir dans l'obéissance avec humilité. Si Dieu nous a appelés, c'est pas parce qu'on était meilleurs. Il nous a appelés, il nous a choisis, nous avons répondu, il nous a justifiés. Hein, il nous a appelés, puis il nous a justifiés, puis il nous a glorifiés. Romains chapitre 8. Vous lisez, vous trouverez. Et l'amour de Dieu surpasse tout. Nous ne pourrons pas être séparés de cet immense amour de Dieu, dans sa largeur, sa longueur, sa profondeur. Lisez à la fin du chapitre 8 de Romains. Alors, nous retournons dans Genèse, parce que c'est fondamental ce livre. Jésus fait référence très souvent à Genèse. Genèse chapitre 17, verset 1. Abraham fut âgé de 99 ans, pour les Belges c'est 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. C'est-à-dire la fécondité spirituelle en Christ, selon la promesse éternelle du salut offerte à toutes les nations. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc quand nous acceptons Jésus, nous acceptons cette alliance abrahamique. Elle est la clé d'interprétation de notre foi chrétienne. La promesse abrahamique est au fondement de l'Évangile. Regardons au chapitre 24 de Genèse, verset 60. Je suis tellement heureux de vous enseigner que, avant d'aller dormir, je ne peux pas m'empêcher de relire ma Bible en pensant à vous, en vous disant, j'ai mis des carottes, j'ai mis des petits pois, j'ai mis des légumes, j'ai mis un morceau de beefsteak dans le plat, mais je vais peut-être encore mettre une sauce tartare, je vais peut-être mettre, de l'huile d'olive, je vais mettre quelques ailes, quelques échalotes. Vous voyez, je suis comme ça, là. Comme je vois Marie-Hélène souvent quand elle fait à manger pour tous ceux qui viennent chez nous, moi j'essaye de vous donner la bonne nourriture du Seigneur. Et au soir, je ne sais pas aller m'endormir sans rajouter quelques bons petits légumes, quelques pincées de ciboulette et de sel marin, et peut-être de romarin, du curcuma, sur la nourriture. Et au matin, quand je me relève, quand j'ai fini de mettre la table et tout, pour que tout le monde soit heureux et content dans la maison, et se sente bien accueilli, eh bien, pas par moi, mais par Dieu, eh bien, pratiquement, après je reprends ma Bible, et je lis. Avant de partir en visite, de faire quoi que ce soit, je prends ma Bible. Et tout d'un coup, je pense, mais j'ai encore oublié ça, il y a encore ceci, il y a encore ça. Et donc, le plat qui est sur la table, pour finir, est très appétissant. Voilà, je l'espère pour vous en tout cas. Alors, Genèse, chapitre 24, verset 60. Qu'est-ce qui se passe? Le serviteur d'Isaac est parti au nord de la Syrie, pas dans Haran ou Charan, c'est comme vous voulez, ces deux noms, et il est dans la famille de Laban, et il vient pour chercher une femme au fils, je pense à Isaac, Rebecca c'est la femme d'Isaac, oui, donc un fils d'Abraham. Et ils sont là, on repart, ils bénirent Rebecca, ils lui dirent, la famille quand elle part, parce qu'elle ne traîne pas, elle part direct, lui dire, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Akaroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer, donc il priait, méditer dans les champs, il leva les yeux, donc il se tourne vers Dieu, et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Qu'est-ce qui est essentiel dans tout cet événement? C'est que par la postérité d'Isaac et de Rebecca, une femme forte, une femme très grande dans la foi, très entière, eh bien, la postérité, ta postérité, Christ, possède la porte de ses ennemis. Possède la porte de ses ennemis. Maintenant, prenez Matthieu 16. Je vous dis que dans la Bible, il n'y a rien au hasard. Matthieu 16, vous allez voir la porte des ennemis. Excusez-moi, j'avais les larmes aux yeux à cause de ce que je vous disais. Je suis dans Matthieu, oui. faudrait que je trouve. C'est la promesse de l'Église. Voilà. Oui, je perds. J'étais tellement ému par toutes ces promesses faites à cette prière pour Rebecca, de toute sa famille. Matthieu 16, verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, donc Pétros, caillou, et que sur cette pierre, Jésus se désigne, Petra, la montagne, le rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons donc ici une promesse répétée, une promesse révélée, dite par Jésus, mais déjà dite par la famille de Rebecca. L'autorité sur Satan, sur la mort, sur le péché, en Christ. En Christ. Est une promesse éternelle à travers tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons retourner maintenant dans la Genèse, qui est une mine d'or. Contrairement à ce qu'on pense toujours, on lit un peu par corvée la Genèse, ou en tout cas parce qu'il faut bien, et puis après, on est souvent toujours dans les épîtres, etc., dans nos églises, dans les épîtres, et ce n'est pas possible. Alors, on ne peut pas rester toujours dans les épîtres. Il faut faire l'entièreté de la Bible pour comprendre les épîtres. Alors, dans Genèse, chapitre 26, versets 2 à 5. L'Éternel apparut. À qui ? À Isaac. Et dit, ne te descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Vous voyez bien que la promesse est faite alors que Isaac est confronté à Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. Hein, Genèse 26, verset 1. Dieu rappelle la promesse faite au papa Abraham. Et tout compte fait, Dieu a fait la même promesse à Rebecca, la femme, la future femme d'Isaac, par la bouche de sa famille. Vous trouvez que, franchement, le café est fort. Ce que je veux dire, c'est que l'Esprit Saint a parlé. L'Esprit Saint a parlé, s'est révélé. Il n'y a rien de hasard. Alors, regardons Genèse, chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba, donc on est dans le sud de l'Israël actuel, presque dans le désert du Negev, hein. Beersheba c'est une ville actuellement en Israël, partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Charan, dans le nord de la Syrie, qui a été dévasté malheureusement par la guerre, mais avant la guerre, le carnage en Syrie, les juifs, les chrétiens, les musulmans allaient tous à Charan parce que tout le monde savait qu'Abraham était passé là. Et il y avait toutes sortes de lieux de prière concernant le prophète Abraham. Alors, Charan existe toujours, si vous voulez, même s'il a été abîmé. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Et quand vous avez ce mot, ce lieu-là, en tradition rabbinique, ça veut dire en présence de Dieu. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est chose bizarre, puisque c'est la vision d'Étienne dans Acte 7 au moment où il est lapidé. C'est la vision qui est promise à Nathanaël dans Jean chapitre 2. promise par Jésus à Nathanaël. Hmm? C'est une constante, tout compte fait, qui nous concerne aussi. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, etc. » Alors, bien sûr, quand Jacob va se réveiller, il va dire, au verset 16, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et bien sûr, cet endroit s'appelle Bethel maintenant. Bethel, Beth, la maison, elle, de l'Éternel. Donc, il y a une manifestation du Dieu Tout-Puissant, une révélation grandiose qui est faite et qui concerne toutes les nations à travers Abraham, Isaac et Jacob. Et nous sommes héritiers de toutes ces promesses en Jésus-Christ. Selon ce que dit Paul dans Romains chapitre 11 et dans Galates chapitre 3. Et bien sûr, dans 1 Timothée chapitre 3, versets 15 et 16. Ce sont des versets si denses, vous voyez quel temps il faut pour les expliquer. Regardons dans Genèse, au chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Verset 10. Je vais commencer au verset... Oui, 49, verset 9, je vais commencer. Là, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Donc la royauté, promise à David et à Christ. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Messie, le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Voilà. Les traductions sont un peu bizarres, suivant les Bibles, pour ce verset-là, je vous le dis. Je me fie plus à la Bible de Second pour cette traduction. Pourquoi ? Parce que, globalement, on retrouve dans Nombre, chapitre 24, verset 17, quasiment la même prophétie, par la bouche de Balaam, l'ennemi de Dieu et d'Israël. Donc, la constante est là. La constante d'une promesse éternelle pour toutes les nations, par une souche, le souche de l'olivier, c'est-à-dire d'Israël. Alors, chers amis, il n'y a nul doute que nous sommes sur un fondement extrêmement solide, le fondement de la révélation, le fondement de Dieu, pour tout ce qui nous concerne, puisque nous sommes des nations. Alors, je pense que j'ai oublié une citation. C'est Genèse chapitre 14, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit : Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quand nous voyons ces versets-là, dans Genèse 14, verset 18 et 20, nous pouvons voir l'explication dans Hébreux, chapitre 7. Abraham est sans généalogie, sans naissance, sans fin. Il prête de l'Éternel. Il est sacré, il est le roi de paix, de justice, de Salem, Jérusalem. C'est Christ, évidemment. C'est Christ qui est apparu là. Et il apparaît comment ? À travers un Cananéen qui est grand prêtre de Salem. Ça veut dire quoi ? Que Christ se révèle à travers un nom hébreu. Quelqu'un qui n'est pas hébreu, qui n'est pas descendant génétiquement de Abraham. Christ se montre, se manifeste et bénit Abraham et sa descendance. Et Abraham donne la dîme, il reconnaît que cet homme cananéen incarne la présence directe de Dieu devant lui. Il donne la dîme à Dieu. Quand vous avez Moïse dans le désert, qui sort d'Égypte, il rencontre Jéthro, grand prêtre de l'Éternel, de Madian, un arabe. Il est prêtre de l'Éternel, alors qu'il n'est pas hébreu. Que fait Dieu à travers ces deux situations? Il fait un clin d'œil formidable. Il abat tous les murs du racisme, toutes les distinctions ethniques et tous les préjugés. Dieu, dans sa grâce, est partout présent. Et le Fils de Dieu veut sauver tous les hommes. Il veut en faire de tous des sacrificateurs, des prêtres et des prophètes. C'est Apocalypse, chapitre 5. Lisons. Apocalypse, chapitre 5. Je pense que c'est le verset 8. On va voir. Je vais pas jouer ici. Alors, c'est Apocalypse chapitre 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau, donc les 24 vieillards, les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, et les sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Donc la promesse d'un royaume sur terre, le problème de cette immense nation que Dieu a faite à Abraham. Nous sommes dans le domaine du formidable, du mensonge, de la fable. Nous sommes dans le domaine de Dieu. Dieu a décidé que, et c'est en route. Et donc, il faut faire attention de prendre la Bible à la légère. Elle est là pour nous instruire. Elle est là pour nous enrichir et nous éclairer. Quand Jésus s'est présenté à Jérusalem sur un anneau, bien sûr, c'était annoncé, 6 siècles avant, par le prophète Zacharie. Zacharie, chapitre 9, verset 9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, vous écrit de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Alors un peu plus loin, il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas la parole de Dieu. Alors, ce qu'il y a, c'est que clairement, le Christ apporte la paix aux nations à Jérusalem un jour. C'était son intention en venant sur un anneau. C'était un acte prophétique. Mais c'est dans le plan de Dieu. Ça va arriver. Nous n'en sommes peut-être pas loin, d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup de textes dans Jérémie, dans Isaïe, dans les Actes des Apôtres, dans les Romains, etc. à étudier. Je ne peux pas le faire aujourd'hui, le temps est court. Je vous demande de méditer tout cela. Nous sommes mercredi, donc vendredi je vais continuer ce sujet. Ce mystère de la piété, c'est-à-dire Christ révélé à ceux qui ont la foi, selon les Écritures, selon l'esprit de la prophétie biblique, ce Christ, qui n'est plus un mystère pour celui qui vit en Christ, mais qui est un mystère révélé, ce n'est plus quelque chose d'obscur, c'est quelque chose de révélé et de clair, de lumineux dans sa vie, eh bien, ce Christ prêché aux gentils est formidable. Il est à l'œuvre aujourd'hui. Et nous allons voir dans tous les textes Nous irons dans Jérémie encore, dans Ésaïe, à beaucoup de place, dans les psaumes, dans les actes des apôtres, à beaucoup de place, dans Romains, à plusieurs places, dans l'Apocalypse. C'est un gros boulot, c'est quelque chose qui est nécessaire. Nous ne mangeons pas qu'une fois, nous mangeons tous les jours, parfois deux ou trois fois par jour. Et bien de la même façon, pour la Bible, nous sommes appelés à la manger, comme les prophètes, à avaler le rouleau, qui est doux comme du miel. Dieu soit loué, que le Seigneur vous aime, je n'en doute pas, que le Seigneur vous accompagne et vous dirige. Et priez pour tous les chrétiens qui sont seuls dans le monde, qui doutent, qui ne lisent pas la Bible, qui devraient retourner à la parole, qui devraient avoir des frères et des sœurs. Priez pour que tous les chrétiens recherchent de vrais frères et de vraies sœurs qui sont attachés à la révélation biblique, à l'autorité de la Bible, pas à l'autorité des hommes, des beaux parleurs. De toute manière, je ne veux pas être un beau parleur. Serviteur pour votre âme, au service de la parole. Dieu soit loué en Jésus-Christ. Amen. Si vous pouvez prier pour notre fille Noémie, elle tousse, elle doit travailler sur l'ordinateur 8-10 heures tous les jours, elle est dans sa chambre. On a déjà eu le problème pour Véronique et Bénédicte, ça durait des mois, les deux années passées. On se demande si c'est des attaques, c'est évidemment peut-être possible. Et prier pour Noémie, qui a 22 ans et qui aime vraiment le Seigneur et qui étudie dur pour pouvoir le servir. Il y a des beaux projets dans son cœur pour le servir. Dieu soit loué.